Vous en voulez un aussi?
Merci bien.
Bon, je vais commencer, s'il vous plaît. Donc, installez-vous vite, hein, je commence là. Donc, bonjour à tous. Je suis extrêmement heureux de vous revoir ici avec moi. J'espère que, voilà, que ça va pouvoir continuer comme ça, que je vais pouvoir continuer à vous voir dans cet amphi. J'ai moyennement apprécié de faire les cours à distance. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais je crois que c'est pas mon truc. Donc je vais reprendre. Ah oui, une petite chose. Si jamais on continue ensemble la semaine prochaine, essayez d'arriver à l'heure. Pour des questions de timing, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde si je peux commencer effectivement à 8h30. Ceux qui arrivent en retard, là, en particulier la semaine prochaine, hein, si on est toujours ensemble, essayez d'arriver à l'heure, s'il vous plaît. Donc je reprends là où je m'étais arrêté donc la semaine dernière. Nous étions en train de voir que le théorème de Kuhn-Netuker, dans le cas convexe, était aussi, en fait, devenait une condition nécessaire et suffisante. Ce n'était pas seulement une condition nécessaire d'optimalité, mais c'était aussi une condition suffisante d'optimalité. Donc, qu'est-ce que c'est que le cas convexe, hein, je vous rappelle que dans ce cours, le cas convexe, c'est la fonction objectif est convexe. Les contraintes d'égalité sont affines et les contraintes d'inégalité sont convexes. C'est un petit exercice facile à faire, hein, qui est fait dans le poly, je crois, le détail est donné dans le poly. C'est très facile, mais refaites-le pour vous, de vérifier que si effectivement les HJ et les GI sont affines, alors l'espace des solutions réalisables, le grand X, est convexe. C'est un ensemble convexe. C'est un tout petit exercice, très facile à faire, mais je vous invite à le vérifier. Et donc, on peut parler effectivement d'optimisation convexe. Optimiser une fonction convexe sur un domaine convexe. Et j'avais commencé à expliquer que dans ce cas-là, on disposait de beaucoup plus d'outils pour résoudre les problèmes d'optimisation. Et en particulier le théorème de Kuhn-Netuker, on le voit déjà sur le théorème de Kuhn-Netuker, qui lui devient une condition suffisante d'optimalité. Donc voilà l'énoncé du théorème de Kuhn-Netuker. Vous reconnaissez le premier bloc, la partie supérieure, c'est la condition nécessaire, qui est exactement la même que d'habitude. Donc on demande en particulier à ce que les contraintes soient qualifiées au point auquel on veut appliquer le théorème. Et par contre, il y a quelque chose en plus. Donc je vais essayer de ne pas pointer avec le laser, mais avec la souris, parce que j'ai compris que sinon ceux qui regardaient en ligne le cours ne le voyaient pas. Donc ce que l'on a, vous voyez bien la souris, là, il y a une souris, oui. Donc ce que l'on a en plus, c'est... je peux même mettre en surbrillance. Ah non, pardon. Je ne vais pas le faire alors. On a cette phrase là après, qui est la réciproque. C'est-à-dire que dès que vous avez des réels lambda et mu, comme on doit les avoir dans le théorème de Kuhn-Netuker, à savoir des lambda non signés pour les contraintes d'égalité et des mu signés positifs pour les contraintes d'inégalité, dès qu'on a des lambda et des mu qui vérifient ça en un point x étoile réalisable, hein, il faut que x étoile soit réalisable, alors le x étoile en question est optimal. Et vous n'avez même pas besoin de vérifier que les contraintes sont qualifiées. Vous arrivez à construire des lambda et des mu comme ça, c'est gagné, votre solution x étoile qui, a priori, n'était que réalisable, devient optimal. Hein, ceux qui arrivent en retard, là, s'il vous plaît, là, aujourd'hui, je dis rien, je suis tellement content de vous voir. Enfin, je dis juste un petit peu, quoi. Installez-vous, mais s'il vous plaît, la semaine prochaine, si on est toujours ensemble, arrivez à l'heure. Il est 37 à la montre, là, ça fait vraiment tard. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi la réciproque de Kuhn-Netuker est vraie dans le cas convexe. Et la raison est même beaucoup, beaucoup plus simple que le sens direct. La raison pour laquelle c'est suffisant dans le cas convexe, c'est juste deux arguments qui s'enchaînent. Et donc le premier argument s'appuie sur ce résultat-là. Donc vous reconnaissez peut-être, au moment où on était en visio, c'est peut-être pas forcément très clair, mais en tout cas, ce théorème-là, donc, qui est à page 20 du poly, vous pouvez très bien faire la chose suivante, c'est regarder non pas la page 20, mais regarder la page quoi ? Je ne sais plus, la page... Donc c'est quand on veut démontrer Kuhn-Netuker, le sens direct, la page... je remonte loin, là. Voilà, la page 7, le tout début du chapitre 2, théorème 2-3. Si vous regardez le théorème 2-3, donc de la page 7, tout en bas de la page, ça a la même tête que ce théorème, sauf que c'est la condition nécessaire. Vous avez que si x étoile est une solution optimale, ou un minimum local, je ne sais plus comment c'est écrit dans le poly, si x étoile est, disons, une solution optimale, alors vous avez cette inégalité-là, pour toute direction d admissible. Vous avez cette inégalité-là pour toute direction d admissible. Et dans le cas convexe, on a la réciproque. Si vous avez un x étoile réalisable, tel que on est le gradient de f de x étoile scalaire d, qui est supérieur ou égal à 0, pour toute direction admissible, hein, on suppose que voilà, grand X est convexe, hein, on est sur un ensemble grand X convexe. Si vous avez cette condition-là, alors automatiquement votre X étoile est un optimum global de la fonction sur grand X. Et la raison est très simple. Je vais l'expliquer maintenant. C'est que, donc j'ai des nouveaux tableaux, hein, j'espère que vous voyez quelque chose. Donc ça, c'est mon domaine grand X. J'ai mon point X étoile. J'ai ma fonction f qui est convexe. Et maintenant, je vous dis que si jamais gradient de f de x étoile scalaire d est positif pour toute direction admissible, alors x étoile est une solution optimale, est un minimum global de la fonction. Je vais vous dire, supposons qu'on a ça, moi je vais l'écrire là, supposons le gradient de f de x étoile scalaire d positif, alors automatiquement x étoile, quelle que soit la direction admissible, quelle que soit d appartenant à d de x étoile, alors automatiquement x étoile est une solution optimale. Pourquoi ? L'argument est très simple. Je prends un autre point y. J'aimerais bien montrer que, hein, je vais montrer que x étoile est solution optimale. Je sais que j'ai cette inégalité large là. Je sais que ma fonction f est convexe, je sais que le domaine grand X est convexe. J'aimerais bien montrer que f de y est plus grand que f de x étoile. Eh bien, ce que j'écris déjà la chose suivante, c'est que ma fonction f est convexe. Et on a vu la semaine dernière, hein, vous vous en souvenez si vous avez relu votre cours, que dans le cas convexe, on a cette inégalité-là. Quel que soit y appartenant à grand X. Hein? Dans le cas convexe, on a cette inégalité-là. C'est l'inégalité page... Dans le cas convexe, donc, page... C'est la proposition 3.3, page 18. Sauf que... Ah, malheureusement, sur la proposition 3.3, j'ai inversé les y et les x. Hein, enfin, bon, c'est interchangeable, bien sûr. Donc, ne soyez pas surpris de voir le y à la place du x et le x à la place de y. En tout cas, on a cette propriété-là. Hein, c'est équivalent même à la convexité lorsque la fonction est différenciable. Vous êtes avec moi ? Et ensuite, il suffit de remarquer que y moins x, dans le cas convexe, c'est très facile de vérifier que y moins x, étoile, pardon, est une direction admissible. Car x convexe. C'est immédiat de vérifier... la définition s'applique ici, que y moins x est une direction admissible. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec la technique, la définition technique, dites-vous bien qu'une direction admissible, c'est juste une direction dans laquelle localement je peux bouger. Hein, c'est ça dont il faut se souvenir. Et ben là, c'est évident dans un cas convexe, si j'ai y comme ça, je peux bouger le long de ce segment-là. C'est une direction dans laquelle je peux bouger. Mais vous pouvez très bien vous amuser à vérifier que la définition s'applique directement. Donc y moins x étoile est une direction admissible, eh bien c'est fini. Si y moins x étoile est une direction admissible, je sais que j'ai ça. Donc ça, c'est positif. Hein? Y moins x étoile, c'est le d. C'est positif. Donc f de y est plus grand que f de x étoile. Donc ce que je suis simplement en train de dire, c'est qu'avec la définition, ce théorème-là, la preuve, elle se fait en deux lignes. Ça va ? Il n'y a même pas besoin de faire un développement limité à l'ordre 1. Hein, je ne sais pas si vous... Je ne sais plus si vous l'avez fait ou non, mais en tout cas, la version réciproque de ce théorème-là, qui est valable donc en toute généralité, C'est une condition nécessaire d'optimalité. La preuve demande à faire un petit développement limité, à discuter un peu de ce qui se passe à l'ordre 1. Ici, c'est direct. J'ai l'application, j'ai la définition de la convexité, j'ai l'inégalité, c'est fini. Donc, j'appelle ça un théorème, mais ce serait presque une remarque, en fait. Si on réfléchit bien, une fois qu'on a compris, c'est juste une remarque. Donc, ça, c'est mon premier outil, le premier outil dont je vais avoir besoin. Et le deuxième outil, ben, enfin, le deuxième point, c'est simplement la fin de la preuve. Donc, sur cette slide-là, elle est peut-être un peu chargée, mais je vous promets que cette slide-là, elle prouve entièrement, mais entièrement, sans le moindre oubli, sans la moindre approximation, la réciproque de Cugnet-Tucker. Hein, je vous ai dit que Cugnet-Tucker, si je trouve des lambdas et des mu, c'est gagné x étoilé optimal. Alors pourquoi ? Ben, on va faire l'exégèse de cette slide. La première ligne, ben, c'est je suppose que je vérifie la conclusion habituelle de Cugnet-Tucker. Et donc hein, je vous rappelle que je veux démontrer que x étoile... Je veux démontrer que x étoile est une solution optimale. En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est simplement démontrer que le gradient de f de x étoile scalaire, une direction admissible, est positif. Je vais juste démontrer ça. Hein, à cause de la slide précédente, si j'ai démontré ça, j'ai gagné. Si j'arrive à démontrer ça, si j'arrive à démontrer que le gradient de f de x étoile scalaire d est positif pour toute direction admissible, j'ai gagné. Donc il suffit que je démontre que c'est là où je veux arriver. Et c'est avec ces étapes-là que je vais y arriver. Donc comment je fais ? Ben, je vais démontrer que cette égalité large est vraie pour toute direction admissible. Donc je prends une direction admissible. Bon, j'en ai une, qui s'appelle D. Et maintenant, je prends aussi tous les indices J, tels que HJ de X étoile égale à 0. Je me rends compte qu'il manque un petit étoile là-haut, il faudrait que je pense à le corriger. Vous voyez, sur la première ligne, hein, on a mu J, HJ de X étoile qui est égal à 0. Donc j'appelle J les indices des contraintes d'inégalité qui sont, est-ce que vous vous souvenez du mot ? J'entends un tout petit peu, active, hein, les contraintes actives. Pour les contraintes d'inégalité, soit elles sont actives et donc elles valent comme une égalité à zéro, soit elles sont inactives. Hein, et en fait, il faut juste imaginer que la solution n'est pas située sur la surface définie par hj de x égale 0. J'avais essayé d'expliquer ça un peu en visio. Hein. Et je note toujours dans le cours j de x étoile les contraintes actives. J'ai le droit d'introduire cet ensemble. Hein, pour le moment, je ne fais rien d'extraordinaire. Et ensuite, ce que je fais... On a déjà vu que le cône tangent est inclus dans le cône linéarisant, ce qui veut simplement dire, et ce n'est pas difficile à vérifier, mais là il faut faire un petit raisonnement à l'ordre 1, mais on l'a déjà fait, que si j'ai une direction admissible, alors ces relations-là sont satisfaites. Hein, on l'a déjà vu ça, en fait plusieurs fois déjà. Si j'ai une direction, ça veut juste dire que si j'ai une direction admissible D, alors forcément ça vaut 0. En fait, ça veut juste dire que si GI de X étoile vaut 0, eh bien, lorsque je bouge localement dans une direction qui me laisse réalisable, eh bien, il faut que GI de X étoile vale encore 0. Reste constant égal à 0. C'est juste ça que ça veut dire. C'est à l'ordre 1, comme c'est des contraintes d'égalité, je veux forcer le GI de X étoile à rester à 0. En fait, c'est très intuitif, ça. Et celle-là, elle est aussi tout aussi intuitive. Elle dit que si par malheur ou par bonheur, j'en sais rien, HJ de X étoile vaut 0, si jamais je suis sur la surface définie par les HJ de X étoile égale HJ de X égale 0, hein, si jamais ma contrainte est active, et bien lorsque je prends une direction admissible, la seule chose que j'ai le droit de faire, c'est de ne pas augmenter le HJ de X, sinon je le rendrai strictement positif et je serai plus réalisable. Hein, donc je réexplique en fait, ce que j'avais déjà essayé d'expliquer les autres fois, mais ça, cette contrainte-là, qui se démontre formellement avec un développement limité à l'ordre 1, elle me dit juste que si jamais je suis sur une contrainte active, si jamais je suis sur la surface, si jamais HJ de X étoile vaut 0, la direction admissible, la seule chose qu'elle a le droit de me faire faire, c'est de diminuer le HJ de X. Je n'ai pas le droit de devenir strictement négatif parce que sinon je ne suis plus réalisable. Et donc je n'ai pas une direction admissible. Pour une direction admissible, il faut qu'au premier ordre, je reste réalisable. C'est pour ça que cette inégalité-là, elle est écrite que pour les contraintes actives. En tout cas, donc ça, normalement, on l'a déjà vu. Si j'ai une direction admissible, forcément, en x étoile, forcément, je dois vérifier ces relations-là. Parce que je dois rester réalisable au premier ordre. Ensuite, je remarque aussi que les mu j valent 0 dès que je ne suis pas une contrainte active. Et ça vient de où ? Ça vient d'où, pardon ? C'est quelque chose que vous avez déjà vu en petite classe en exercice, c'est la puissance de cette relation-là. C'est dès que ceci est strictement négatif, ben forcément, je n'ai pas le choix, le mu j en question doit valoir 0. Hein, si j n'est pas une contrainte active, ça veut dire si hj de x étoile est différent de 0, hein, j n'est pas dedans, ben forcément le mu j correspondant est nul. Ça va ? Bon, ben maintenant, ce que je fais, c'est que je fais descalaire le membre de gauche, là-haut. Hein? Descalaire ça. Donc là, je vais faire, ben, je vais sortir descalaire le gradient de f de x étoile, ça c'est bon. Descalaire le gradient de gi de x étoile, on vient de dire que ça fait 0, donc ça disparaît complètement. Et le gradient de hj de x étoile, je ne garde que les indices j qui sont actifs. Pourquoi ? Ben parce que je viens de dire que les autres mu j valent 0. Donc finalement, hein, le calcul, lorsque je le fais, j'obtiens directement ça. Vous êtes avec moi, c'est bon ? Est-ce qu'il y a, il y a un doute ou... Non, c'est pas difficile, hein, normalement. Ça va ? Bon, ben maintenant que j'ai ça, je sais que le d... Donc n'oubliez pas que ce terme-là, il vaut 0. Donc tout ça, ça vaut 0. Et descalaire le gradient de hj de x étoile pour j actif, on sait que c'est négatif. Donc quand je passe de l'autre côté, ça devient... Les mu j sont positifs. Donc quand je passe de l'autre côté, ça devient positif. Et donc j'ai bien descalaire gradient de f de x étoile qui est positif. Ce qu'on voulait démontrer. C'est tout. Et vous voyez, là j'ai mis tous les détails. Ça tient une slide. Donc en fait, la réciproque, hein, elle est beaucoup plus facile. J'ai même pas besoin de me soucier du fait que c'est qualifié. Hein, la qualification, elle assure qu'en fait, on a égalité des deux ensembles D et D', mais on s'en fiche, on a juste besoin d'inclusion. Donc c'est vraiment très simple. Si vous arrivez à construire un lambda et un mu qui satisfont la conclusion de Q et Tucker, vous n'avez pas besoin de dire les contraintes sont qualifiées. Il suffit de dire, par la réciproque de Q et Tucker, le X étoile est forcément optimal. Donc c'est extrêmement puissant. Donc là, vous voyez la puissance de la convexité. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques, des objections? Non? Ah là là. Je vous accepte. Hein. Je suis tellement content de vous voir. Mais s'il vous plaît, arrivez vraiment à 8h30. Si jamais vous êtes encore. Si vous avez le droit de revenir la semaine prochaine. Donc on a parlé de convexité. Je vais juste parler de deux autres convexités. Enfin, deux autres convexités. C'est toujours la convexité, mais c'est des raffinements de la notion de convexité. Donc il y a. En plus d'être convexe, une fonction peut être strictement convexe. Et comme son nom l'indique, strictement convexe, c'est ce à quoi vous vous attendez. Hein. Ça, c'est l'image qu'il faut avoir quand on dit qu'on est convexe. On dit que la corde est au-dessus de la courbe, c'est la définition de la convexité. Et stricte convexité, ça veut dire qu'il y a un vrai écart ici. Hein, si j'ai, par exemple, la fonction valeur absolue est convexe. Hein, chaque fois que je prends une corde, je suis supérieur ou égal à la courbe, même si je prends la corde ici. Par contre, la fonction valeur absolue est-elle strictement convexe? Non, parce qu'il n'y a pas d'écart strict partout. Une fonction affine est convexe, mais n'est pas strictement convexe. La fonction 1 sur x, j'ai dû le mettre, oui, voilà, la fonction 1 sur x est strictement convexe. On va très vite voir l'intérêt de la stricte convexité. Mais tant qu'on dit, on va continuer avec une autre notion encore plus forte de convexité, qui est la notion de forte convexité, justement. Donc la forte convexité, c'est pareil que la stricte convexité, à ceci près que on quantifie l'écart qu'il y a entre la corde et la courbe. Et c'est une expression un peu compliquée. C'est pas très... Enfin, c'est bien de s'en souvenir, hein. L'essentiel, c'est de voir qu'il y a un terme quadratique dedans. C'est-à-dire qu'en fait, ça croît de manière quadratique avec la distance entre les deux points qu'on prend. Et donc, cet écart-là, comme il est, hein, j'ai alpha strictement positif, vous voyez que, nécessairement, ça implique la stricte convexité. La corde, dans le cas de la forte convexité, l'écart entre le membre de gauche et le tf de xy plus 1 moins tf de y, il est strictement positif, hein, dès que t est différent de 0 ou 1. Donc la forte convexité implique la stricte convexité. Mais la forte convexité est beaucoup plus riche. On va le voir dans quelques instants. Peut-être même que je vais tout de suite essayer de le dire. Parce qu'il y a ce terme quadratique qui fait que je vais faire la chose suivante. C'est fait dans le poly, mais on peut également voir, si je pose y égale 0, c'est juste, c'est heuristique, hein, ce que je vais faire, parce que Donc là, c'est bon, mais dans le poly, par exemple, je dois un peu expliquer pourquoi je peux prendre y égale 0, parce que je vous rappelle que dans le poly, les fonctions, parfois, peuvent prendre la valeur plus l'infini. Quitte à translater, voilà, quitte à bouger un peu la fonction, je peux prendre y égale à 0. Et ce que je vois, c'est qu'à ce moment-là, f de tx est plus petit que tf de x plus 1 moins tf de 0 moins 1 demi de alpha t 1 moins t x au carré. Et donc, si je prends t différent de 0, hein, t strictement différent de 0, je peux réécrire la chose suivante, je vais la mettre comme ça, hein, je change le sens de l'inégalité, je mets ça, f de x plus grand que, f de x plus grand que 1 sur t, f de tx, moins 1 moins t, f de 0, enfin ça je m'en fiche, le 1 moins t, f de 0, donc je ne vais pas l'écrire, plus, c'est pas 1 sur alpha, hein, c'est moi qui, c'est 1 demi de alpha, donc c'est 1 demi de alpha, 1 moins t, norme de x au carré, moins blablabla. J'ai juste divisé par t, passé les choses de l'autre côté, juste pour isoler le f de x. Le blablabla, c'est 1 moins t, f de 0 sur t, donc c'est, si t est fixé, si je fixe t à une certaine valeur, je sais pas moi, disons 1,5, ça c'est une constante. Si t est fixé, dans le poly je le prends 1 sur la norme de x, vous voyez que finalement ça je peux aussi le borner par une constante. Je fais vraiment avec les mains. Le seul truc qui ne va pas être borné là-dedans, c'est ce x carré. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'à partir de la définition, et c'est fait de manière précise dans le poly, on peut vérifier que f de x, en fait, est toujours supérieur ou égal à une constante, ou quelque chose de linéaire en norme de x, plus la norme de x au carré. Il y a la norme de x au carré qui borne inférieurement mon f de x. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que ma fonction f de x, elle est toujours contenue dans un paraboloïde. Donc, quelque chose qui varie comme la norme de x au carré. Ça veut dire aussi que lorsque x tend vers plus l'infini, la norme de x tend vers plus l'infini, f de x, quoi qu'il arrive, va toujours tendre vers plus l'infini. Donc en particulier, corollaire immédiat, juste petite remarque, la fonction 1 sur x n'est sûrement pas fortement convexe parce qu'elle tend vers 0 dans une direction. Et l'image qu'il faut avoir de la forte convexité, c'est l'image que j'ai récupérée sur Wikipédia, je crois, hein, c'est ça. C'est vraiment une sorte de paraboloïde, une fonction fortement convexe, elle tend vers plus l'infini dans toutes les directions, et en fait elle contient toujours un paraboloïde. Et c'est ça qui va faire que c'est beaucoup plus riche. Et donc voilà les propriétés. Je vais d'ailleurs effacer les propriétés intéressantes, hein, je vais mettre là, de la stricte convexité et de la forte convexité. Donc la première propriété, c'est que si on fait de l'optimisation convexe, c'est-à-dire si le domaine est convexe et la fonction est convexe, même et c'est strictement convexe, alors le problème admet au plus une solution optimale. Donc la stricte convexité va être particulièrement utile pour assurer qu'il n'y a pas plein de solutions optimales. Que s'il y en a une, il n'y en a qu'une seule. Et ça, c'est immédiat. Hein, parce que si vous avez deux solutions optimales, hein, si vous avez... s'il y avait deux solutions optimales, hein, je me mets dans le cas strictement convexe, je mets x étoile et x dièse, eh bien, vous écrivez la relation de stricte convexité... qu'est-ce que je raconte, moi ? C'est pas ça que je vais écrire. Si vous écrivez la relation de stricte convexité sur x étoile et x dièse avec t égale 1,5, vous trouvez que... Vous trouvez quoi ? Si x étoile et x dièse sont deux solutions optimales, ces deux quantités-là sont égales. Et c'est la plus petite valeur qu'elle peut obtenir dans la fonction. Donc là, vous avez en fait ce que vous avez, c'est que x étoile plus x dièse sur 2, cette solution-là, qui est toujours réalisable parce que grand X est convexe, cette solution réalisable-là, elle a une valeur f qui est strictement plus petite, hein, c'est strictement plus petit que la valeur optimale, ce qui est une contradiction. F de x étoile, c'est égal à la valeur optimale. F de x et de y, c'est égal à la valeur optimale, parce que j'ai supposé que j'avais, c'était les solutions optimales. Donc j'arrive à une contradiction. J'ai une solution réalisable qui a une valeur qui est meilleure que la solution optimale, que la valeur optimale. Donc la stricte convexité implique immédiatement qu'il y a toujours au plus une solution optimale. Et la forte convexité, elle implique, si le domaine est convexe, fermé, non vide, elle implique existence et unicité. Alors, l'unicité, on vient de la voir, parce que forte convexité implique stricte convexité. Et l'existence, ben, normalement, vous la connaissez déjà aussi, parce que forte convexité implique, j'ai peut-être pas prononcé le mot tout à l'heure, mais j'ai dit que lorsque x tendait vers plus l'infini, hein, c'est encore cette inégalité qui est ici, lorsque x tend vers plus l'infini, hein, dans le poly, j'ai pris t égale à 1 sur la norme de x, donc ça, c'est borné, quand x tend vers plus l'infini, la norme de x tend vers plus l'infini, eh bien, ça tend vers plus l'infini, donc c'est coercif. Donc on a également existence de la solution optimale. Donc la forte convexité, c'est le cas le plus confortable de la convexité, c'est on a existence et unicité de la solution optimale, du moment que l'espace est convexe, fermé et non vide. Pour l'unicité, vous avez besoin de la convexité, et pour l'existence, vous avez besoin, rappelez-vous, coercif, vous avez besoin que ce soit fermé et non vide. Normalement, cette proposition-là, vous la lisez... Vous lisez la preuve. Et donc la forte convexité a beaucoup de propriétés, comme on va aussi le voir encore plus tard dans ce cours, quand je parlerai d'algorithme. Alors, est-ce qu'on a des conditions pour vérifier qu'une fonction est strictement convexe ou une fonction est fortement convexe? Oui, on en a plein. J'en ai mis quelques-unes dans le poly. Je crois que c'est à peu près celle que j'ai mis sur les slides ici. Donc la convexité, on en a vu déjà quelques-unes. En particulier, celle qui est la plus facile, c'est de vérifier que la SN est semi-définie positive. Ce qui veut simplement dire que la dérivée seconde est positive ou nulle. Pour la stricte convexité, la première condition est une condition suffisante, mais pas nécessaire. Je peux facilement construire des contre-exemples, je ne vais pas le faire maintenant, mais pour la stricte convexité, si jamais la SN est définie positive, alors la fonction est strictement convexe. Mais vous avez des fonctions strictement convexes pour laquelle la SN n'est pas forcément définie positive en tout point. Définie positive, ça veut juste dire que l'inégalité est stricte ici. Si vous pensez en termes de valeurs propres, matrices symétriques, vous pensez valeurs propres, toutes les valeurs propres sont strictement positives. Hein? Donc c'est une condition suffisante de stricte convexité. Pour la forte convexité, vous en avez une qui met en jeu les différences des gradients. Ce n'est pas celle-là dont on sert habituellement. C'est la plus utile, à nouveau, si c'est deux fois différenciable, c'est... le fait que vous puissiez minorer votre SIN par une matrice identité. Pardon, une matrice diagonale avec des coefficients positifs sur la diagonale. Hein. C'est il existe alpha tel que ceci est semi-défini positif. Donc en particulier, ça implique immédiatement, c'est un exercice trivial, de vérifier que ça implique que la SIN, dans ce cas-là, est définie positive. Il suffit de vérifier la condition multipliée par x transposé x. Et vous voyez que nécessairement, la SN sera définie positive. Donc, ça, c'est des conditions qui permettent de vérifier que la fonction est fortement convexe ou strictement convexe. On revient rarement à la définition originelle parce qu'elle est assez technique. Et c'est le poly. Dans le poly, on se charge. Normalement, je ne sais plus si j'écris les preuves, mais voilà, normalement, c'est un exercice que de montrer que cette condition-là découle de la définition de la forte convexité. Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc on a vu qu'une étude claire la réciproque était vraie dans le cas convexe. Et on a aussi commencé à discuter de stricte convexité qui assure l'unicité de la solution optimale et de forte convexité qui assure unicité et existence. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sinon, j'enchaîne avec la suite, donc. Où je vais vous parler un tout petit peu d'algorithme et de dualité à nouveau. Donc, avant de vous montrer ce dessin, je vous avais dit voilà, au premier cours que souvent, il n'est pas possible d'avoir une formule explicite pour la solution optimale. En exercice, malheureusement, vous ne le voyez pas toujours parce qu'on vous fait résoudre on vous fait résoudre des systèmes. Donc en général, on arrive quand même à écrire une solution optimale. Bon, ça, c'est parce que c'est un environnement académique, et puis de toute façon, parce qu'on ne fait pas des travaux pratiques, et puis ça viendra, vous ferez des stages, vous ferez des projets. Sachez quand même qu'en général, dans le monde appliqué d'optimisation, lorsque, si vous faites travailler pour une entreprise qui fait l'optimisation, qui a besoin d'optimisation, en général, vous n'aurez pas de formule. Ça arrive, hein, dans ce cas-là, c'est le jackpot. En général, ce que vous allez faire, c'est proposer un algorithme qui va prendre du temps, des fois trop longtemps, des fois, pour vous trouver une solution optimale ou approchée. Pensez au petit projet que vous êtes en train de faire. C'est pareil, je ne vous demande pas une formule explicite pour la solution optimale. De toute façon, il n'y en a pas. Hein, je vais vous le dire qu'on le sait, ça qu'il n'y en a pas. Par contre, vous utilisez un solver qui lui-même fait appel à un algorithme. Il s'appuie sur un algorithme. Et donc là, je vais vous présenter un algorithme qui est peut-être le plus classique de l'optimisation et le plus naturel. C'est ce qu'on appelle l'algorithme du gradient. C'est vraiment... les idées remontent au 18e siècle, 19e siècle, pardon. Qu'est-ce que c'est ? Ben c'est lorsque je veux trouver le minimum d'une fonction, je me mets en un point, et peut-être même que vous l'avez déjà vu au lycée ou en prépa. Vous êtes en un point, et puis finalement vous appliquez la condition nécessaire du premier ordre pour voir si vous êtes ou non à l'optimum. Est-ce que la dérivée est nulle ou non ? Donc, la dérivée est nulle, hein, je vous rappelle que c'est uniquement si le problème est non contraint. Là, je présente d'abord l'algorithme dans un cas non contraint. Je redis encore une fois, hein, je voulais le dire tout à l'heure quand j'étais ici, parce que à la dernière séance, j'ai encore des fois des élèves qui me posent la question. Condition nécessaire et suffisante d'optimalité, ce n'est pas l'annulation du gradient dès que quand vous avez un domaine borné comme ça, hein, quand vous n'êtes pas sur Rn, l'annulation du gradient n'est pas une condition nécessaire et suffisante d'optimalité. Hein. Voilà. Donc là, j'ai dit, je regarde l'annulation de la dérivée, c'est dans le cas non contraint. Donc vous êtes en votre point là, c'est pas optimal, ça semble pas être optimal. Le gradient vous donne un peu l'indication de variation de la fonction. Hein, si dans le point x0, vous voyez le gradient est positif, le gradient dans dimension 1, c'est juste la pente de la tangente, hein, c'est la dérivée. Là, la pente, elle est positive. Donc ça vous dit que si vous bougez dans le sens opposé, dans le sens négatif, vous allez diminuer votre fonction. Donc c'est naturel, vous dites en x0, la dérivée est positive, donc je vais vers les négatifs. Dans l'espoir de diminuer ma fonction. Et je fais un petit pas dans cette direction-là, et je recommence. Et bien, c'est juste ça, l'algorithme du gradient. Vous voyez, c'est simple. C'est simple et c'est naturel. Ça va ? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou non ? Oui ? Le gradient, c'est la flèche rouge. Hein. Le gradient, ici, ça vit dans R, parce que j'optimise en dimension 1. En dimension 2, si jamais vous optimisez en dimension 2, bah, ça ressemble à ça. Hein. Peut-être qu'on voit mieux finalement en dimension 2 qu'en dimension 1. Là, les courbes, j'ai essayé, hein, c'est moi qui ai tracé à la main. Chaque courbe, c'est f de x égale constante. Donc le gradient... pardon, c'était l'opposé du gradient hein, tout à l'heure. Pardon. Le gradient, je vais faire sur la slide. Le gradient, il va comme ça ici, en x0. Hein, le gradient, il va comme ça. Donc si je veux diminuer la fonction, je vais dans le sens opposé, comme ça. Et donc, je bouge d'un certain pas et j'arrive sur une nouvelle courbe f de x égale constante. Et normalement, cette fonction est suffisamment régulière. Cette constante-là sera plus petite, hein, puisque je suis allé dans le sens opposé du gradient. Ça va ? Je rappelle que le gradient vous quantifie la variation au premier ordre d'une fonction. Hein, si vous faites le développement limité au premier ordre, on l'a déjà fait plusieurs fois, et bien vous voyez que le terme qui contrôle la variation de la fonction, c'est le gradient. Donc, si je veux diminuer la fonction localement, je vais dans le sens opposé du gradient. Et je recommence. Et en faisant ça, on espère qu'au bout d'un moment, on arrivera sur ce qui est l'optimum global de la fonction. Et puis il faut faire attention de ne pas faire des trop grands pas, parce que vous voyez que si je me mets à faire des grands pas, je peux facilement osciller. Hein, c'est facile d'imaginer, hein, imaginez que je me remets en dimension 1. Je me remets en dimension 1. Je veux trouver le minimum ici, puis... le minimum qui est ici, puis supposons que je sois ici, puis je fais un bond comme ça, et je reviens ici, puis après je fais un bond comme ça, je risque d'osciller. Je peux même, malheureusement, en faire pire, hein, je peux même commencer à partir. Je peux m'éloigner de la solution optimale. Donc on sent bien qu'il ne faut pas que le pas soit trop grand, même idéalement qui diminue quand on s'approche de la solution optimale. Et donc là, je vous présente ce qu'on appelle L'algorithme du gradient à pas constant. Je n'ai pas mis le mot pas constant dans le poly, je ne crois pas en tout cas. Donc c'est, il est à droite, c'est exactement ce que je vous ai raconté. Hein. Exactement. Là, c'est le cas non contraint. Je minimise une fonction sur Rn. Et c'est exactement ce que j'ai raconté. Vous voyez, j'ai xk plus 1 qui prend xk moins L, c'est ce que j'appelle le pas. Donc c'est une constante que j'ai fixée. Et le gradient fois le gradient de f de x de k. Je vais dans le sens opposé du gradient. Là, normalement, l'incrément de l'algorithme va diminuer parce que le gradient s'attend à ce qu'il tende vers 0. Donc ça fait quand même des pas de plus en plus petits. Mais ce qu'on appelle le pas de l'algorithme qui est L, lui, ici, il est fixé à une constante. Je voulais juste dire quelque chose avant, ça m'échappe. C'est pas grave. Ah oui, et dans l'input, il y a ce fameux epsilon. Je vous avais dit aussi, la première séance, que non seulement on n'a pas de formule explicite pour la solution optimale, mais souvent, on ne peut même pas calculer la solution optimale elle-même. On ne peut que garantir de ne pas être trop loin d'une solution optimale. Et donc, par défaut, les algorithmes prennent un epsilon qui est la précision numérique à laquelle on veut la solution optimale. Je le dis tout de suite, je ne sais plus si je l'avais dit lors de la présentation du TPA, en optimisation linéaire, il n'y a pas besoin de précision. C'est une des richesses de l'optimisation linéaire qu'on verra à partir de la semaine prochaine, c'est que vous n'avez pas besoin de ce epsilon. Donc c'est un autre, finalement, l'optimisation linéaire, on la présente des fois comme l'optimisation convexe, c'est un autre monde, c'est un monde où on n'a pas besoin d'epsilon, où d'autres choses sont vraies. Mais dans le cas convexe classique, vous n'avez pas d'optimisation linéaire, vous avez besoin de ce epsilon. Et d'ailleurs, c'est ce qui va permettre aussi d'arrêter l'algorithme, parce que vous voyez bien qu'avec ce genre de méthode, on a peu de chances de paf, ça peut y arriver, mais des fois on risque de osciller autour de la solution optimale, il faut quand même que votre code s'arrête. Donc il faut ce qu'on appelle un critère d'arrêt, et le critère d'arrêt en général, c'est simplement que les deux solutions qu'on trouve sont suffisamment proches et successives, et donc c'est là qu'on s'arrête. Et donc vous voyez que j'ai mis le théorème là, si f est différenciable, ça c'est juste pour pouvoir écrire le gradient. Oublions fortement convexe pour le moment, et si le gradient de f est lipschitzien, ça veut juste dire que gradient de, on demande à ce que on demande à ce que le gradient de f de x moins le gradient de f de xy, de f de y est plus petit que l fois x moins y pour un certain l. Donc ça, en général, c'est une condition vraiment qu'on voit quasiment toujours apparaître pour ces algorithmes-là d'optimisation convexe. On a besoin de ces conditions-là, c'est une condition technique. Oublions forte convexité, pensons juste convexité. Alors, l'algorithme converge vers la solution optimale pour L suffisamment petit. Donc dans le poly, je crois que c'est page 23, l'énoncé est plus explicite. Il donne une borne sur L qui assure la convergence. Mais bon, pour l'amphi, là, il suffit de savoir que si je choisis L suffisamment petit, ça va converger. Si vous n'êtes pas dans le cas lipschitzien, il se peut que l'algorithme ne converge pas. Si vous n'êtes pas dans le cas convexe, il faut au moins demander convexe, il se peut aussi que l'algorithme ne converge pas, voire qu'il converge vers autre chose, vers un minimum local. Je signale juste ça pour dire que dans le cas convexe, on peut écrire des beaux théorèmes. Lorsqu'on quitte le cas convexe, ou lorsqu'on relâche certaines de ces conditions-là, on n'est plus forcément sûr de ce qui va se passer. Il n'empêche que, en tant qu'ingénieur, des fois, il faut faire un peu des choses approximatives. Rien ne vous empêche d'essayer l'algorithme pour voir ce qui sort. Vous n'avez pas l'interdiction d'utiliser cet algorithme-là, et en pratique, il peut très bien se comporter. Ce que je dis simplement, c'est que pour avoir des garanties théoriques solides, c'est le monde convexe qui permet de l'assurer. Et pourquoi j'ai mis cette petite nuance sur forte convexité? En fait, l'algorithme converge, je ne l'ai pas mis dans le poly, j'hésite à le modifier pour les années à venir, je crois que je dis ça chaque année. La forte convexité n'est pas requise pour la convergence. La forte convexité, il faut la convexité, la forte convexité est requise pour une convergence rapide. Si vous regardez dans le poly, donc page 23, vous avez donc le théorème 3.14, comme pi, dans la preuve, vous avez un moment. Ce que vous avez, qui est caché, c'est ce qui est écrit avec les θ, ce que vous avez, c'est que, on peut écrire ça comme ça, on peut écrire que xk plus 1 moins x étoile, moins la solution optimale, est plus petit qu'un certain bêta fois xk moins x étoile. La preuve, dans le cas de forte convexité, permet, j'ai presque envie de l'encadrer, voilà, permet d'assurer une égalité de ce type-là. C'est l'inégalité, vous voyez, vers la fin de la preuve, vous avez θ de x moins θ de y plus petit que racine de 1 moins, etc. Blablabla. Si vous remplacez y par x étoile, le θ de x étoile de y devient x étoile lui-même. Et cette formule-là, elle vous garantit en fait qu'on a une convergence comme ça. Et c'est ce qu'on appelle une convergence linéaire, parce que si vous itérez, ça fait du bêta puissance k. Ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que la forte convexité assure que ça converge rapidement. On va parler de convergence linéaire quand on a du bêta puissance k. Mais en toute rigueur, on n'a pas besoin de la forte convexité pour la convergence. Donc la forte convexité assure que les choses se passent vraiment bien. C'est un autre endroit où on voit que la forte convexité est importante. Donc si vous avez un problème d'optimisation, vous voyez que vous avez de la forte convexité, vous n'êtes pas contraint, l'algorithme du gradient se passera bien. Alors en pratique, les gens font des choses encore plus, comme c'est beaucoup utilisé en machine learning, en apprentissage, tout ça. Ça, c'est vraiment la base. Les gens font d'autres choses. Déjà, la première chose qu'ils font, c'est que le L, il varie à chaque étape. On appelle ça le pas variable. Et deuxièmement, il y a des méthodes d'accélération qui, au lieu de faire dépendre xk plus 1 de xk, il fait dépendre xk plus 1 de toutes les étapes avant. Je vois qu'il y en a qui disent oui, parce que vous avez déjà pratiqué, mais c'est un truc vraiment classique, c'est des méthodes d'accélération extrêmement efficaces. Donc, ce que je suis aussi en train de vous dire, c'est que ne programmez pas ça. Là, c'est juste pour vous commencer à vous initier à ces algorithmes-là, mais si jamais un jour vous devez faire ce genre de méthode, allez, je mets des références dans le poly, allez vers des méthodes qui s'appuient sur les mêmes idées, mais qui permettent d'aller, qui, à un coût quasiment nul, vous permettent d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Est-ce que l'esprit général est clair? C'est mon objectif aussi en amphi, c'est de vous faire comprendre les idées générales, les idées principales, qu'il y a un message qui passe. Alors là, j'ai dit, si on n'est pas contraint, que se passe-t-il si on est contraint? C'est le sens de ce dessin. Je suis obligé de vivre sur grand X. À nouveau, si je suis obligé de vivre sur grand X, la condition du premier rang, gradient de f de x étoile égale à 0, ça peut être ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante. Là, l'algorithme du gradient, si je l'applique, j'ai essayé de dessiner à nouveau les courbe iso-valeur, je ne sais pas comment on dit ça, de la fonction f, vous voyez, je commence en x0, je suis le gradient, et paf, malheureusement, je sors du domaine. D'ailleurs, je n'avais pas parlé de ça tout à l'heure, mais le problème de l'algorithme du gradient, il peut être, si c'est contraint, ça peut être vraiment compliqué, parce que dès que je fais un pas, peut-être que je vais sortir. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Eh bien, on fait un truc naturel, c'est ce qu'on appelle l'algorithme du gradient projeté, c'est que je rajoute une étape de projection. Je me ramène sur le domaine. La projection, c'est quoi? La projection, je vais quand même en parler là, un tout petit peu en amphi, parce que c'est important. C'est dans le poly, je parle de... Supposons que vous ayez un x convexe, fermé, non vide, puis vous avez un point x ici. Eh bien, le projeté de x sur grand x, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on résout le problème d'optimisation. X moins... je ne vais pas l'appeler X, je vais l'appeler... comment je vais l'appeler dans le poly? Je vais l'appeler X, je crois, quand même. Bon, tant pis, je l'appelle X. X est une donnée, et la variable, c'est Z, sous la contrainte que Z appartient à grand X. Le projeté de petit X sur grand X, en fait, c'est la solution d'un problème d'optimisation. Je fais vivre petit Z dans mon ensemble grand X, et je cherche celui qui minimise la distance. X fermé non vide. C'est pareil que de minimiser aussi le carré, la distance. Et là, vous reconnaissez quoi? C'est dans le poly, mais je ne sais pas si c'est vraiment assez bien écrit. Le projeté, résoudre le problème du projeté, c'est résoudre ce problème d'optimisation-là. Vous êtes en train de minimiser une fonction fortement convexe, coercive, sur un convexe fermé non vide. Existence et unicité de la solution. L'optimisation, le théorème d'optimisation qu'on a vu avant, vous garantit que la notion de projeté sur un fermé non vide est bien défini. Ça va, ça? Donc c'est dit en passant comme ça dans la section algorithme, mais il y a un message quand même assez profond, là. Il y a l'existence de la notion de projeter sur un fermé convexe non vide. Et je viens de prouver son existence et son unicité. Tout ça pour dire que, voilà, on sait définir la notion de projeter, et on peut donc réécrire l'algorithme du gradient comme ça. Petit problème. Donc voilà, je l'ai réécrit, vous voyez, j'ai juste rajouté le projeté ici. Petit problème. Bon, là, en théorie, tout se passe bien. Mais ce qu'on est en train de faire, caché dans l'algorithme, c'est de résoudre un autre problème d'optimisation. Je dois calculer le projeté. Je dois résoudre ce problème d'optimisation-là. Et on peut démontrer que ce problème-là, il n'est pas plus simple que n'importe quel autre problème d'optimisation. Ça veut dire que l'algorithme du gradient projeté, il sera implémentable en pratique, seulement si grand X prend des formes très confortable, c'est-à-dire des formes sur lesquelles il est facile de projeter. Donc, par exemple, si grand X c'est Rn, bon ça c'est le cas non contraint, c'est facile. Si grand X c'est un pavé, c'est facile aussi. Si grand X c'est un hyperplan, c'est facile. Si grand X c'est une sphère ou une boule, c'est facile. Mais si grand X n'est pas tel que le problème du projeté se résout facilement, hein, si c'est un ensemble convexe quelconque défini par des inégalités, vous ne saurez pas mieux résoudre ce problème de projeté que le problème de départ. Et donc l'algorithme du gradient projeté ne fonctionne pas dans ce cas-là. Il n'est pas implémentable. Et pour ça, il faut d'autres algorithmes. Donc il y en a un dans le que je vais signaler en cours. Je pense que je reviendrai dessus la semaine prochaine. Je voudrais juste finir cette séance par parler un tout petit peu à nouveau de dualité. Donc là, j'oublie quelques instants les algorithmes. En fait, avec la dualité, je comptais revenir sur les algorithmes, mais je vois que j'aurais pas le temps. Donc je vais voyez juste ça comme un message sur la dualité. Et la semaine prochaine, on commencera le cours par une petite explication de l'intérêt que ça peut avoir pour les algorithmes à nouveau. Donc, je vous ai dit, en convexité, les choses se passent bien. À nouveau, vous voyez, les contraintes sont qualifiées et qu'il y a une solution optimale, alors on a ce qu'on appelle dualité forte, c'est-à-dire que le problème dual et le problème primal ont la même valeur optimale. Et je vais terminer sur une preuve de ceci. La preuve est très simple. J'imagine que la dualité, ça vous fait un peu peur. Cette preuve va vous permettre de pratiquer la dualité et vous allez voir que la preuve est très simple. Donc je dis dans le cas convexe, si on est qualifié, blablabla, alors on a un saut de dualité qui est nul, c'est-à-dire la valeur optimale du primal égale la valeur optimale du dual. Comment est-ce qu'on peut voir ça? Je prends x étoile la solution optimale du primal. Et qu'une étuquère s'applique, eh bien, on va avoir la chose suivante. On va avoir que, je suppose que j'ai que des contraintes d'inégalité, on va avoir que le Lagrangien de x étoile, mu étoile, c'est égal à l'inf sur x du Lagrangien de x de mu étoile. Je cherche le... Alors vous dites, mais quel rapport avec une étuquère? Bon, déjà, les tableaux sont petits, je ne vais pas tout écrire. Déjà, il faut que vous vous souveniez de la définition du Lagrangien, mais la définition du Lagrangien, je vais l'écrire ici. Peut-être qu'il y en a qui voient déjà pour quel est le lien. Mais si j'écris le Lagrangien, hein, L de x de mu étoile, qu'avec les contraintes d'égalité, hein, pour des questions de place, voilà, c'est plus somme des mu j, somme des mu j, h j de x étoile. Eh bien, si h j est convexe, si les h j sont... Pardon, il n'y a pas de x étoile ici, mais c'est un mu étoile. Si les h j sont convexes, le Lagrangien, en tant que fonction de x, c'est une fonction qui est comment? Les mu j sont positifs. Le Lagrangien, en tant que fonction de x, si je suis dans le cas convexe, c'est une fonction qui elle-même est convexe, hein, comme somme de fonctions convexes, non contrainte. Hein, je vous rappelle, quand je fais écrire le Lagrangien, x vit dans Rn. Donc ici, je veux juste minimiser une fonction convexe sur Rn. Là, je peux appliquer la condition du premier ordre, dans ce cas-là. Hein, je suis dans le cas qualifié de ça, blablabla. Je peux dire que minimiser ça, c'est équivalent à dire que le gradient de ça en tant que fonction de x vaut 0. Et si vous écrivez le gradient de ça, qu'est-ce que vous voyez sortir? La formule de Quine-Étuquère, qui dit que c'est 0 en mu étoile. Hein, en x, le x étoile, ce que je suis en train de dire, c'est que le x étoile donné par Quine-Étuquère, il vous garantit que le gradient de ceci en x étoile vaut 0. Et donc, x étoile, c'est bien la solution de ceci. Digérez-le, vous pouvez voir dans le poly. Ce que je dis juste, c'est que Quine-Étuquère, dans ce cas-là, vous garantit que le gradient de ceci, qui est une fonction convexe, s'annule en x étoile, et donc on a cette relation-là. Et si on regarde x étoile, mu étoile, ça vaut 0. Donc ça, c'est égal à f de x étoile aussi. Hein, c'est à nouveau Quine-Étuquère. Ce produit-là, il vaut 0 en x étoile. Et ça, Là, vous reconnaissez la fonction objectif. Vous reconnaissez la fonction objectif que j'ai notée D du dual. C'est la fonction objectif obj dual. Donc ça, c'est la valeur en mu étoile de la fonction objectif du dual. Hein, vous revenez sur la page... quand je parlais de dualité, c'était où ça? Page 14, en haut, là, vous avez la définition de la fonction objective du dual. Donc, si on oublie les contraintes d'égalité, c'est exactement ça. Et donc, vous avez une solution optimale du primal x étoile, une solution réalisable du primal x étoile, une solution réalisable du dual mu étoile, qui donne les mêmes valeurs à la fonction objective. Par dualité faible, hein, on peut conclure, si je dis que ça c'est plus grand que la valeur optimale du primal, qui est plus grand que la valeur optimale du dual, hein, on a toujours f de x étoile, c'est supérieur ou égal, c'est même égal à la valeur optimale du primal, qui est toujours plus grand, ça c'est la dualité faible à la valeur optimale du dual, qui est plus grande qu'une solution particulière, on maximise, mais ça c'est égal à ça, donc tout est égal. Tout est égal. C'est... Bon, j'ai été un peu vite. Je vous assure que c'est pas difficile. Pratiquez-le. Ce que je dis juste, c'est que qu'une étuquère, dans le cas convexe, s'il y a une solution optimale pour le primal, assure la dualité forte. La valeur optimale du dual égale à la valeur optimale du primal. Et le calcul se fait très simplement. Je vais donc vous libérer, vous laisser partir en TD. Je voudrais juste dire une petite chose. Donc, j'ai pas encore répondu à tous les élèves qui m'ont signalé leur groupe de TPA. Simplement parce que pour question de pratique, de timing. Donc laissez-moi quelques jours ouvrés quand même. Il y a un élève qui m'a relancé hier. Voilà, dans la semaine, vous aurez tous, enfin tous ceux qui m'ont contacté en tout cas, auront leur valeur numérique et leur groupe de TPA. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine en espérant vous revoir mardi prochain. Et puis je vous laisse rejoindre vos groupes de TD.